France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Momo Kodama. Je suis née le 6 mars 1972 à Osaka, Japon, et je suis pianiste.
Hier, Momo Kodama nous racontait ses leçons avec Tatiana Nikolaeva et Vera Gornostayeva, une vraie galaxie féminine. Elle évoquait aussi la religion protestante, à laquelle elle est très attachée. Aujourd'hui, poursuivons notre conversation autour du sacré. Au Japon se mêlent de nombreuses cultures religieuses, et par exemple, le shintoïsme.
Je pense que c'est cette idée un peu du miracle de la nature qui est très présente dans la culture japonaise, et je pense que c'est ça qui a aussi attiré beaucoup Messiaen, ce rapport à la nature, cette sensibilité à la beauté, au miracle. Il a composé d'ailleurs des œuvres qui s'en sont inspirées.
Et oui, moi, même des chants d'oiseaux japonais,
de Karoizawa,
des haïkai,
voilà, absolument. Et il aimait même la nourriture, ça a été quand même une surprise qu'il aimait le sukiyaki, tout ça, et qu'il voulait dormir sur les tatamis. Alors vraiment ça, j'étais très surprise. Mais c'est vrai que j'ai vu après Madame Loriot dans les kimonos qu'elle mettait sur sa robe noire du concert. Donc je pense qu'il était très sensible à cet aspect spirituel de peuple japonais. Pour ma part, quand je joue Messiaen, bien sûr, j'ai l'impression de comprendre d'où ça vient cette musique. Qu'est-ce qui l'a inspiré. Mais en même temps, je pense que même si on n'est pas chrétien ou si on n'est pas spirituel, ça parle, parce que il voyait ça avec beaucoup de poésie, je trouve, et ça donne aussi les titres très poétiques, ça donne des images très poétiques, donc je pense que c'est un grand mélange, c'est extrêmement complexe, les œuvres de Messiaen. C'est pour ça que j'étais au début très attirée par ces belles harmonies, par ces belles couleurs, cette ampleur de désaccords qui remplissent tout l'espace. Mais après, j'ai vu que derrière toute cette beauté, il y a une grande recherche de rythme. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la difficulté de la musique de Messiaen, par exemple, pour les oiseaux. Le catalogue d'oiseaux que j'ai finalement joué en entier, mais je crois que c'est une des œuvres les plus difficiles que j'ai jouées, parce que les oiseaux... C'est pas comme un chant humain. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de phrase. Il n'y a pas une grande respiration avant qu'il chante. Alors, ça vient tout d'un coup. Et il chante un peu sans se soucier du voisin, je veux dire. Entre eux. Parce que quelquefois, très souvent dans les catalogues d'oiseaux, il y a plusieurs oiseaux qui chantent en même temps. Et de faire ça avec les 10 doigts, faire 3 oiseaux qui chantent en parallèle, aussi le son de l'oiseau, c'est un son très perçant, parce que je ne m'étais pas rendu compte. Mais quand j'ai commencé à travailler ces chants d'oiseaux, je voulais quand même écouter qu'est-ce que c'est le vrai chant d'oiseau. Donc j'ai acheté plein de livres, plein de CD avec tous les chants d'oiseaux de France. Et je me suis rendu compte qu'ils ont un son qui porte énormément, parce que même dans la nature, ils n'ont pas besoin de haut-parleurs ni rien, ça va très loin, les chants d'oiseaux. Ça veut dire qu'il faut trouver cette couleur juste, et donc...
Mais lui qui était synesthète hein, aussi, Messiaen. Oui. Donc ça, j'imagine que lui, il entendait en couleur, mais oui. Si vous n'êtes pas synesthète, ça fait partie... d'une couche supplémentaire d'illusion, d'invention,
c'est d'interprétation. C'est une illusion, c'est une invention, oui, parce que pareil avec les couleurs, j'étais allée chez le très fameux magasin de peinture ici, à côté des Beaux-Arts, et j'ai fait la récréation de ce qu'il disait, quel bleu, avec le rouge, avec un point de or, enfin, je mettais ça sur papier. ça donne quelque chose de très abstrait. Lui, sûrement, il voyait ça. Mais si on essaie vraiment de le faire littéralement comme ça sur papier, je crois qu'on ne peut pas s'inspirer de ça. Donc c'est vraiment l'imagination. Et il y a beaucoup de choses que, pour moi comme ça dans le Messian qui parlent profondément, oui.
On parlait des figures importantes, pour l'instant beaucoup de femmes, mais il y a aussi quelques hommes qui ont été importants dans votre parcours. Je pense à Andras Schiff,
oui.
On pourrait dire architecte du piano d'une certaine façon, et qui a aussi cette casquette d'avoir également créé son ensemble de chambres, d'avoir aussi cette notion de direction, comme mm-hmm. Reperaya, qui va aussi d'ailleurs compter dans votre parcours, qui
oui.
lui aussi dirige. Quels sont les grands apports de ces deux rencontres?
Oui, Peraya, c'était au festival de Aldeborough.
Oui.
Et c'était aussi un moment où j'étais un peu contre le mur. Je n'arrivais pas à avancer, j'étais trop... Peut-être dans cette esthétique de Madame Gornastava, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait complètement pris. Mais après, il y avait aussi des choses qui étaient... un peu forcé en moi par certaines approches. Et donc, je suis allée voir mon Reperaya, il faisait un cours sur Chopin et sur la méthode Schenker. C'était une certaine façon d'analyse qui permet de voir la grande structure d'une œuvre harmonique. Et c'était la condition, c'est de prendre un cours le matin avec lui en piano et l'après-midi avec professeur Charter qui venait de New York. Une lecture de cette analyse Schenker.
C'est quoi cette analyse Schenker? Parce que là, les auditeurs...
Voilà, c'est une analyse très spécifique harmoniquement où on voit un peu l'œuvre comme on voit un plan d'une ville. Ça veut dire on voit les rues importantes, on voit le mur. C'est certaines analyses qui font que il y a plusieurs layers, il y a plusieurs
strates,
oui,
étages,
oui, comme le millefeuille, comment dire, superposition d'analyse. Et la première analyse, elle est vraiment les piliers pour en voir vraiment la construction. Après, on va plus dans les détails. Et c'est vraiment une façon d'analyser la chose. Et après, vraiment, chaque son prend son sens. C'est éminemment intéressant, surtout pour moi qui est plutôt instinctif de savoir vraiment le pourquoi des choses, pourquoi cette harmonie est tellement importante. Et bien sûr, c'est des choses qu'on fait au début, mais là, comme c'est tellement poussé, des choses faisaient du sens. C'est une approche où à la fois on simplifie et aussi à partir de cette énorme simplification, on va plus à plus dans les détails. Donc cette énorme simplification, c'était très intéressant, moi qui me posais 1000 questions et des fois je ne savais pas pourquoi cette harmonie comme ça. Et donc c'était une vraie découverte et c'était aussi une façon de prendre un peu de recul par rapport aux choses que j'avais faites avant. Et me Reperaya, c'était une époque où il faisait un peu de sabbatique, il ne jouait pratiquement pas. Et je trouvais ces leçons tellement extraordinaires que je suis allée demander si je peux peut-être revenir lui jouer les choses. Et il m'avait dit, oui, bien sûr, normalement je ne prends pas les élèves, mais j'aime beaucoup la façon dont vous avez apprivoisé les cours. Donc, appelez-moi dans un an. Je me suis dit... Peut-être il va me détester, mais tant pis, il faut essayer. Donc je lui ai écrit une lettre et j'ai dit, est-ce que peut-être je pourrais venir vous jouer, pas en attendant un an, mais un peu plus rapproché. Et il m'a répondu très gentiment, oui, oui, venez le mois prochain. Et c'est comme ça, je suis allée peut-être tous les 2 mois à Londres. Et pour y aller, il fallait d'abord faire cette analyse. Je disais que j'avais la grâce Ariana de Schumann. Il m'a dit, oui, apportez-moi ça, mais faites-moi le graphique de cette analyse avant de venir. Et puis, lisez toutes les... le livre de Hoffmann avant de venir et dites-moi qu'est-ce qui vous a inspiré pour jouer cette œuvre. Donc il y avait toute une préparation avant de venir. Et pareil, on passait tout un après-midi ensemble où il m'expliquait, on essayait d'échanger, il voyait mon graphique, comment j'avais analysé. Lui, il avait fait lui-même aussi entre-temps son analyse, on comparait un peu les choses. C'était, oui, une époque très intéressante. Mais c'est vrai que là, j'entrais vraiment dans l'analyse.
Est-ce que du coup, ça ne donne pas, Momo Kodama, un piano très cérébral ?
Oui, quand je vois Merapéraïa, lui, il approvisionne à sa façon, donc ça ne reste pas cérébral. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai tendance un peu à aller dans les extrêmes, à la fin, ça devenait un peu une obsession. Et c'est là que j'ai rencontré aussi Andras Schiff. Avant,
qui est très architecte, lui aussi.
Qui est très architecte, mais avec beaucoup de recul. Et puis, c'était une époque où je voulais retravailler Bach beaucoup. Donc, je suis allée lui jouer, Fantaisie chromatique et fugue. Là, j'étais un peu... Bien sûr, j'étais encore en apprentissage, mais j'étais déjà un peu plus formée. Et peut-être que je savais un peu plus qu'est-ce que je voulais aussi. Donc, c'était des rencontres très intéressantes. Aussi, beaucoup de conversations qu'on avait menées. Lui aussi, c'est quelqu'un qui lit énormément... qui écoute énormément, qui va au théâtre énormément.
Ouais, c'est un puits de culture.
C'est inépuisable comme culture par la musique. Donc, il y avait beaucoup de conversations intéressantes. Je lui parlais des programmes quelquefois, qu'est-ce qu'il en pensait de mes programmes, choix de programmes. Et il adore manger aussi. Et pareil, j'allais le voir là où il jouait. Des fois, j'allais aussi le voir à Londres parce qu'il habite à Londres, mais très souvent, c'était avant ou après ses concerts. Et donc, je crois que depuis mes 17 ans, j'ai jamais eu de cours réguliers tous les semaines, mais c'était plutôt comme ça, des rencontres tous les mois, ce qui a fait que j'étais obligée de chercher beaucoup par moi-même.
Vous avez jamais souffert de la solitude ?
Non, je sais que piano c'est très solitaire, j'aime beaucoup ça en fait, j'aime bien être solitaire, je suis très entourée par des personnes que j'aime, donc je ne me sens pas en solitude, au contraire j'aime beaucoup passer beaucoup de temps seule avec mon piano et construire quelque chose à partir de ça, explorer pour après échanger avec les autres, parce que ça c'est une partie que j'aime beaucoup aussi, échanger avec les autres. J'aime beaucoup parler avec mes amis, même collègues pianistes mais pour échanger, j'ai besoin aussi de savoir un peu qu'est-ce que je veux, quelles sont mes perspectives de la chose.
Dans l'échange, par exemple, il y a évidemment les moments de musique de chambre, Momo Kodama, oui. Et pour le pianiste qui a une place particulière dans ce dialogue chambriste, selon que c'est du duo, du trio, du quintet, il y a différentes formes. Les instruments à vent, les instruments à cordes, en termes de technique, en termes d'inspiration, Il vous apporte, à vous, la pianiste, qui n'est pas obligée comme eux de respirer ou de... Voilà.
Oui, c'est... On essaie tout le temps d'imiter les phrases d'un coup d'archer, d'une respiration. Mes amis violonistes ou violoncellistes ou oboïstes, enfin, autres que le piano, ils me disent qu'au contraire, ils veulent avoir cette écoute harmonique et... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire constamment. Je ne pourrais pas penser une vie de pianiste sans avoir la part de musique de chambre. Les prochaines étapes, j'aimerais beaucoup aussi intégrer le leader dans ça, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de faire le cycle de Schumann, de Schubert et même les mélodies de Debussy. Bon, j'en ai fait quelques-uns, mais il y a tellement de choses à explorer aussi dans ce domaine. Et puis, c'est connexion aux mots dans les leaders qui sont tellement intéressantes et enrichissantes. Et voilà, ça c'est la prochaine étape que j'aimerais faire. Mais maintenant, je me dis que depuis peu de temps, on peut faire aussi un peu, parce que j'aime tellement ça, la musique de chambre, je me suis dit, je peux faire aussi un peu, imaginer que je fais la musique de chambre moi-même. Je veux dire, avec les différentes voix, c'est un peu musique de chambre.
De vous accompagner aussi, d'une certaine façon. Est-ce que vous fredonnez, par exemple? Est-ce que vous, votre voix, vous vous en servez dans votre quotidien?
Oui, beaucoup.
Et vous chantez des phrases, par exemple, pour essayer de trouver des phrasés? Est-ce que voix vous aide?
Ah oui, énormément. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dès le début avec Germaine Mounier, mais... Et quelquefois, les mots aussi, ça peut aider à placer sur les choses pour comprendre une diction d'une phrase. Donc, pour moi, ça m'aide à voir à pas rester sur place. Et, parce que je considère que quand on n'avance pas, on reste pas sur place, on recule. Alors, pour avancer, je pense qu'on peut voir par différents angles. Et une fois, j'avais suivi pendant une semaine la répétition de metteur en scène Dimitri Tcherniakov. Je voyais la précision avec laquelle
il mettait en scène un opéra.
Je trouvais ça fascinant, donc j'étais là tous les matins, j'écoutais, je voyais. Et après, je suis rentrée à la maison, je me mettais aussi mise en scène moi-même. Et
une chose de piano solo, mais vous rendez chambriste d'une certaine façon en imaginant des voix, des respirations, des instruments.
Et qu'il y a une voix qui est peut-être que ça ne marche pas parce qu'il y a une voix qui ne respecte pas l'autre, qui n'attend pas que l'autre a fini sa phrase et que l'autre est déjà impatient. Je pense qu'une œuvre, ça peut être approché par... mille façons différentes qui font que l'œuvre, elle existe, elle est vivante.
Et l'œuvre instrumentale et théâtrale. Évidemment, moi je pense à Mozart, vous qui êtes mozartienne.
Ah, totalement.
Mozart est totalement théâtral.
Totalement,
l'opéra s'invite dans les concertos.
Absolument. Alors là, vraiment, on peut se faire une mise en scène très facilement, à soi, avec des choses... On peut très facilement même voir le visage de la chanteur ou de chanteur qui chante cette mélodie, les phrases, les expressions, les mots. Après, oui, ça, peut-être Mozart, ça donne même envie d'apprendre l'italien en plus. Enfin, il y a beaucoup de choses connectées. Et je crois que finalement, tous les jours, c'est une succession de tout ça.
Quand on pense à la musique de Bach, est-ce que l'héritage de Tatiana Nikolaeva est important pour vous? Parce que vous nous avez confié l'avoir aussi travaillé avec Andras Schiff. Mais Tatiana Nikolaeva a un Bach que je trouve très original aussi.
Oui, c'est deux approches très différentes. En même temps, Nikolaeva adorait Schiff quand il jouait du Bach. Elle allait toujours l'écouter à Salzbourg, je me souviens, quand il jouait le récital. Et je crois qu'Andras Schiff a un grand respect aussi. Enfin, il me parlait avec beaucoup de tendresse pour Tatiana Nikolaeva. Oui, elle avait une façon de rendre très, comment on peut dire, très humain, avec un son. Bien sûr, je suis sûre qu'elle savait comment ça sonnait à l'époque de Bach, tout, mais avec beaucoup de choses vivantes. Je crois qu'elle mettait beaucoup de joie dans cette musique aussi, la tragédie, quelque chose qui est actuel. Et je pense que cette façon de jouer Bach, avec cette joie de vivre, cette joie de, dans le son aussi, quelque chose de très rond, de très chaleureux. Elle a vraiment utilisé le piano, pour moi, par la meilleure facette, pas en la mettant d'une façon romantique, pas du tout, mais en prenant le meilleur ce qu'un piano peut apporter. C'était une extraordinaire vision de Bach qui m'inspire toujours beaucoup. Oui.
L'utilisation de la pédale aussi.
Oui, elle mettait beaucoup de pédales.
Oui.
Mais pour moi, qui font sens. Et très clair dans la polyphonie, on entend tout, même s'il y a beaucoup de pédales. Très clair dans la structure. Et là, on voit qu'elle est compositrice aussi, quelque part, on voit cette façon de construire. Et très humain, vraiment, je pense que c'était quelqu'un de chaleureux. Je suis sûre qu'elle aimait la vie. Malheureusement, elle est partie trop vite.
Il y a une femme qui est partie d'ailleurs l'été dernier, qui est Colette Zera. Je crois que vous l'avez connue également, elle, femme de compositeur.
Pierre Janssen.
Janssen, exactement. Oui. Et qui était aussi, alors elle, un rapport peut-être aussi plus très moderne au piano, qui était à Darmstadt, qui était
absolument
très aux prises avec tout ça. C'est quelqu'un que vous avez rencontré aussi?
Oui, je l'ai rencontré assez récemment, donc j'étais là vraiment, du coup. Adulte, mais vraiment adulte. J'avais déjà beaucoup d'expérience. Et c'était un hasard parce que je devais enregistrer les miroirs de Ravel. Et une semaine avant la date de l'enregistrement, Manfred Eicher, le producteur, m'appelle en me disant qu'il a perdu un ami très cher, cinéaste grec, Angelopoulos, qui était décédé. Donc, il n'était plus dans l'état de travailler et... c'était reporté. Et moi, j'avais vraiment préparé la chose. Et je sentais que je devais faire quelque chose avec. Et le prochain concert, c'était encore dans quelques mois avec ce programme. Donc, ma nièce qui commençait juste à travailler avec Colette Serra, je lui ai dit, est-ce que je peux vous jouer une fois cette... Et je suis allée le jouer. Elle m'a ouvert beaucoup de nouveaux horizons, beaucoup de choses très intéressantes, très précieuses aussi, parce qu'on pouvait parler de beaucoup de choses. Elle avait travaillé la philosophie aussi. Je l'ai connue, elle avait, je crois, 90 ans. Elle s'intéressait encore à l'astrophysique, qu'elle découvrait juste. Alors, elle commençait à lire les livres sur... Et c'est avec elle que j'ai beaucoup revisité Debussy, que j'ai revisité Ravel. Et c'était toujours un échange très intéressant, très enrichissant. En tant que femme, comme vous dites, elle était une femme très moderne. Elle a fait énormément de créations. Mais elle connaissait Rameau, Couperin. Je me souviens, une fois, je suis allée les jouer. Elle connaissait vraiment bien aussi les questions d'ornementation, des choses qui se passent actuellement. Elle écoutait tout le temps la radio, d'ailleurs. Elle avait tout le temps la radio allumée. Donc oui, c'était ma dernière rencontre très importante, oui.
Thank you.
Colette Zera jouant la musique écrite par Pierre Janssen en hommage à Johannes Brahms pour refermer le 4e épisode de ses grands entretiens avec Momo Kodama. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Frédéric Kérou, mixage Emmanuel Morse-Duncan, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.